Alors, de retour à l'émission, je vous rappelle qu'Isabelle Maréchal est en congé aujourd'hui. Elle sera en congé aussi lundi et reviendra mardi matin. Donc, c'est avec plaisir que je suis là avec vous ce matin. Donc, comme je vous l'ai annoncé avant la pause, on va parler d'obésité au cours du reste de cette première heure de l'émission. Saviez-vous que plus de 60% de la population canadienne souffre d'embonpoint? On parle de 25% d'obésité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on est plusieurs, même quand on n'est pas en surpoids, vouloir perdre des kilos quand même. Dieu sait que c'est difficile, alors je peux imaginer pour quelqu'un qui aurait une soixantaine de kilos à perdre à quel point ça doit être difficile. Mais pourquoi c'est si dur et est-ce qu'on s'y prend bien? Les régimes se suivent aussi, ne se ressemblent pas toujours. Là, en ce moment, c'est le keto qui a la cote. Là, tout le monde parle de keto, keto, keto. Puis ça, c'est bien du gras. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une solution? Et surtout, la grosse donnée qui n'était pas si connue que ça il n'y a pas si longtemps, l'obésité risque de diminuer notre espérance de vie de 3 ans d'ici 2050 au Canada. Alors donc, aujourd'hui, Journée mondiale de la lutte contre l'obésité, on en profite pour faire le tour de la question et surtout se demander, est-ce qu'on peut être gros et en santé? Avec nous, un grand spécialiste de la question, le docteur Maurice Larocque, auteur du livre « L'obésité n'est pas une maladie » et conférencier, et Carl Savard, entraîneur personnel, qui a déjà été obèse. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Félicitations, bonjour, félicitations Carl, merci. Pour cette prise de poids qui semble vraiment durer.
Oui. La remise en forme a eu lieu. En fait, le wake-up call, je dirais, a eu lieu en fin 2009. J'avais vu une photo de moi où je me suis pratiquement pas reconnu sur la photo. C'était une photo où j'étais avec mes enfants et j'ai eu vraiment l'impression que je ne donnais pas un bon exemple à mes enfants. Donc, j'ai décidé de me reprendre en main, de bouger tous les jours, de faire attention à mon alimentation, surtout au niveau des quantités.
Ouais, les portions.
Parce que c'était pas nécessairement au niveau de la qualité de mon alimentation, c'était plus au niveau des quantités. J'avais tendance à terminer les assiettes des enfants et tout ça. Puis finalement, ma vie a complètement retourné de bord. J'ai perdu 100 livres en 10 mois. Je suis devenu entraîneur.
C'est vite!
Oui, quand même.
C'est vite!
Quand même, mais c'était, en fait, c'est la constance qui a mené à ça. C'est le fait de toujours le faire et de maintenir
les habitudes. On s'encourage, hein? Quand on voit les grandeurs de pantalon qui diminuent, quand on flotte dans notre linge, ça
magasiner, en fait, juste magasiner, c'est quelque chose que je connaissais pas.
Fait c'est
que...
le bonheur. Docteur Maurice Larocque, spécialiste de l'obésité, vous étudiez ce domaine depuis 40 ans. Vous avez écrit ce livre, L'obésité n'est pas une maladie. La question, est-ce qu'on peut être gros et en santé?
On peut le penser, mais je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'on peut être gros et heureux, mais on peut penser qu'on l'est. Parce que l'être humain a la capacité de se convaincre de tout ce qu'il fait, même quand c'est mauvais pour lui, que finalement, il y a des bonnes raisons. Alors, moi, je pense que l'humain, en général, on est des menteurs pathologiques. On se fait croire des affaires. Et chacun qui nous écoute aujourd'hui pourrait se demander, et même par rapport à la cigarette, par rapport à « je fais pas d'exercice », par rapport au choix alimentaire, par rapport à cyberaddiction, pourquoi je fais ça? Et on se trouve des raisons, mais c'est qu'on se trouve des raisons, c'est peut-être pas la vraie raison.
Même les fumeurs se trouvent des raisons, alors que pourtant
les
preuves...
Tous ceux qui ont des addictions. Mais moi, bon, ma vie comme médecin commence à être assez longue. Là, je suis dans ma 50e année de pratique médicale. J'ai vu des milliers, des milliers, des milliers de gens. C'est fou comment l'humain a la capacité de se convaincre que ce qu'il fait est bien, même quand des résultats ne sont pas là. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Et est-ce que tout le monde veut changer? Non. Ce qui m'intéresse tantôt, Carl, puis on a parlé...
Il y a eu quand même une bonne discussion avant l'émission.
Je suis impressionné par son parcours. Et il nous a dit son déclic était, à un moment donné...
Une photo.
Pour une photo, ce qui arrive souvent pour les gens. Et pour ses enfants. Pouvoir aider ses enfants d'être un mauvais exemple. Il y a toujours un déclic. Mais avant le déclic, je ne sais pas comment il pensait, mais il se justifiait sûrement de peser tout près de 300 livres.
En fait, dès mon jeune âge, j'ai eu l'impression que j'étais un petit gros. Puis je me l'ai un peu répété dans ma tête, puis je le suis devenu. Puis on en parlait un peu tout à l'heure, hors d'onde aussi. Moi, je pense que la chose sur laquelle j'ai travaillé le plus dernièrement sur ma page Facebook, ceux qui veulent me trouver sur Facebook, c'est facile, là, Carl Savard. En fait, ce que je parle le plus souvent avec les gens qui me contactent par rapport à ça, c'est important d'arrêter de se programmer aussi. Les gens disent qu'ils vont se battre, que pour eux autres, c'est un combat, l'obésité, jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je pense que si tu te dis que quelque chose est un combat, tu vas te battre jusqu'à la fin de tes jours. Moi, j'aime pas qu'on se programme de cette façon-là. J'aime mieux penser, dans mon cas, entre autres, que ça fait 10 ans, dans le fond, que je cherche à m'améliorer, à être une meilleure personne, autant au niveau mental qu'au niveau physique, puis que je suis dans un chemin où, qui me mène vers une meilleure santé. Mais moi, j'ai pas l'impression de me battre avec l'obésité. Mmh. Sinon, je pense qu'à force de me le dire, je finirais par me battre
avec ça. C'est parce qu'à un moment, on perd. On perd un peu de poids, mais on perd la bataille. Puis, oui. Est-ce que c'est vrai, Dr Larocque, que le corps... Moi, c'est une médecin qui m'avait dit ça. Le corps, quand on a fait un grand régime, cherche à retrouver le poids perdu. À retrouver là où il était.
Ridicule.
C'est pas vrai.
C'est ridicule. Il y a des explications scientifiques. C'est-à-dire que quand on perd du poids, notre métabolisme basal, le nombre de calories qu'on a besoin pour vivre, respirer, si on bouge pas, va diminuer parce qu'on est moins gros. Alors, certains, par exemple, Carl, quand il pesait 300 livres, son métabolisme basal et la dépense d'énergie aujourd'hui est plus basse que dans ce temps-là. Donc, son besoin est plus bas. Alors, le problème, c'est que la médecine ne reconnaît pas ce qui se passe entre les deux oreilles de la personne. Le côté émotionnel, gestion du stress chronique, pour moi, c'est numéro un. Et c'est pour ça que je dis que l'obésité n'est pas une maladie, c'est parce que nos pensées sont créatrices. Alors, Carl vient nous en donner un exemple, il parlait de ses enfants, ce qui l'a motivé. Ça s'est passé entre ses deux oreilles.
C'est tout à fait vrai.
C'est pour ça que je dis que l'obésité n'est pas une maladie. C'est parce que ça se passe entre les deux oreilles.
Oui, et ça, je vais vous reprendre l'article que je vous ai prêté tout à l'heure, parce que c'est dans la presse aujourd'hui, en cette journée de lutte mondiale contre l'obésité. Ou Journée mondiale de la lutte contre l'obésité, 223 pédiatres québécois pressent le gouvernement Legault de reconnaître l'obésité comme une maladie et d'investir massivement en prévention pour ne pas négliger la pire épidémie de santé du 21e siècle. L'obésité est reconnue mondialement comme une maladie depuis 2013 et vous dites que ce n'est pas une maladie, mais il y a une petite nuance à apporter.
Tout à fait. Ça se passe entre nos deux oreilles. Donc, c'est nos pensées. Est-ce que nos pensées, il y a des maladies? Il y a peut-être des maladies mentales particulières.
Mais le stress, c'est un genre de maladie.
Bon, si on dit que le stress chronique, parce que moi, je pense que c'est le responsable numéro un, avec la qualité de l'alimentation qui a changé et avec le fait que les gens ne bougent pas beaucoup, mais le numéro un, pour moi, c'est le stress chronique. Et ça dépend beaucoup comment on voit les choses. Dans notre société de performance, tout le monde a des quotas qu'on doit d'année en année pousser plus loin. Jusqu'où qu'on peut pousser d'année en année à en faire plus? La peur de perdre son emploi, la peur de... évidemment, les médias, c'est les champignons pour rendre les gens anxieux et coupable. Là, on parle du climat, c'est la même chose. C'est plus qu'on rend les gens anxieux, mais on voit au débordement que ça amène aussi.
Oui, puis on mange nos émotions. Ça, c'est une expression qui dit tout. Combien de fois, dans un moment de frustration totale, on arrête au dépanneur et on s'achète une ou deux ou
moi,
trois crèmes glacées ou des choses.
Je me souviens du moment précis où je me suis rendu compte que je mangeais mes émotions. Souvent, on le dit comme ça. Là.
Ça a l'air d'une expression.
Quasiment 90% du monde qui pense qu'ils mangent leurs émotions. Là. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, alors que j'avais déjà perdu du poids, je venais d'avoir une discussion avec mon fils. Il était ado, il avait fermé sa porte fort. Ça faisait peut-être 20 minutes qu'on était sortis de table. C'est sûr, j'avais pas faim. Je suis remonté en haut, choqué, puis il y avait un muffin sur le comptoir, puis je l'ai ramassé, puis je l'ai mangé. Puis c'est là que j'ai fait directement le lien entre mon émotion que j'essayais de geler parce que ça avait été mon réflexe pendant très longtemps.
Il vient de dire le mot important. On mange nos émotions. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est geler nos émotions.
Tout à fait.
Et la bouffe, le sucre pour beaucoup de monde, la bouffe en général, d'autres auraient fumé davantage, d'autres auraient pris plus de pot, d'autres auraient fait d'autres addictions.
Oui.
Et de sorte que la bouffe aujourd'hui, pour beaucoup de gens, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est une addiction.
Oui, oui. Puis c'est quand même rare qu'on va compenser une colère ou une émotion ou une frustration avec une petite salade. On s'entend.
Oui, on va prendre quelque chose.
C'est toujours quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Qui remonte à loin.
Oui, tout à fait. Le plaisir de l'enfance, le plaisir de... Et la nourriture, et Carl on en parlait, je dis, la nourriture, on ne peut pas s'en passer. Alors, on peut arrêter de boire, le réflexe conditionné. Donc, à quelque part, moi, je pense que c'est plus difficile de gérer un problème de poids et d'alimentation qu'un problème d'alcoolisme ou de cigarette, de tabagisme.
Parce qu'on ne peut pas se passer de nourriture.
On ne peut pas se passer. Alors, il faut apprendre à la gérer.
À la choisir. On va s'arrêter le temps de la pause. Je vous invite à nous appeler si vous avez soit vaincu votre problème d'obésité et comment. Moi, je suis très curieuse de savoir comment vous avez fait. Quand on va revenir, j'aimerais qu'on aborde aussi les méthodes actuelles pour aider les gens qui sont en gros surpoids, sans jeu de mots, la chirurgie bariatrique, etc., ce que ça vaut et tout ça. Donc, 514-790-9850. On attend vos appels. On parle de la lutte contre l'obésité. Est-ce qu'on peut être gros et en santé? Je pense que ça, cette question-là, on l'a réglé assez vite au début de cette heure. C'est-à-dire que d'après le docteur Maurice Larocque, non, on ne peut pas être obèse et en santé. Jacques, au téléphone, a perdu beaucoup de poids. Bonjour, Jacques.
Bon matin, ça va bien?
Bien, merci, et vous?
Absolument, oui, ça va toujours très bien.
Combien de livres et comment?
225 livres en 2 ans. En fait, c'est un mensonge. J'ai 210 livres en 2 ans et le reste en préparation pour mon premier demi-Ironman. Salut, Carl, en passant.
Bonjour, M. Aubin. Comment allez-vous?
Comment ça va, mon ami? On
ça va bien, je suis content. Content que t'appelles.
C'est un de ceux que t'as coaché, Carl?
Non, en fait, genre qu'un parcours qui ressemble un petit peu au mien, un éveil un peu lié aussi avec ses enfants, une course qu'il avait vu sa fille courir à l'époque puis qu'il avait dit l'année prochaine, on va le faire ensemble.
Wow.
Puis Jacques, un peu comme moi, s'est lancé la mission après d'aider les autres à prendre soin d'eux.
Donc Jacques, aucune aide, c'est-à-dire pas de chirurgie bariatrique, pas de médicaments quelconques?
Pas de chirurgie bariatrique, juste un support d'un nutritionniste. Puis après ça, j'ai compris le principe, je suis parti de l'avant, j'ai mangé mieux, j'ai mangé 3 repas par jour, mes collations, puis je perdais du poids. Et c'est ça. Après ça, on est entré au gym, on a changé des trucs, et depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Ça va faire 10 ans le 31 octobre. C'est comme un nouveau déguisement pour l'Halloween.
Wow.
Je trouve ça... Ouais. Félicitations, Jacques. Et je félicite aussi Carl. Moi, ça fait près de 50 ans que je parle d'obésité. C'était ma mission puis ma passion d'aider les autres à faire une différence dans leur vie. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Jacques et Carl, par eux-mêmes, et ça, je pense que c'est assez rare, ont pu faire un travail sur eux. Parce que oui, il a changé son alimentation, oui, il s'entraîne là, pour l'Ironman.
Et c'est
ça.
Parti d'un moment, une espèce de... Oprah Winfrey appellerait ça un « aha moment ouais. », là, comme lui, la
ça.
Photo.
Le
dans
déclic.
Le cas de Jacques, voir sa fille courir et se dire « ben là, non, ça va faire ».
Et ça, est-ce que je me trompe, Jacques, de dire que ta façon de voir ça maintenant a complètement changé?
Absolument, absolument. Puis elle a évolué, cette façon de voir ça. Les années ont fait que j'ai compris le pourquoi je me suis ramassé comme ça. Il y a eu beaucoup de recherches à l'intérieur de moi, pourquoi je me suis en allé dans cette direction-là. Et aujourd'hui, des milliers de personnes par année s'engagent à bouger avec moi. Puis je le fais pour aider les gens. C'est même pas une question financière. Oui, je gagne ma vie avec ça maintenant, mais c'est pas une question financière. J'ai besoin que les gens comprennent l'importance de leur vie. On est taxés actuellement. Les gens sont super endettés et taxés. Et ils se lèvent le matin pour aller faire un travail qu'ils n'aiment pas. Il tombe dans une roue dans laquelle, à un moment donné, il s'oublie complètement. Puis dans cet oubli-là, ben, l'alimentation, il passe, tout y passe. Puis ils deviennent des robots, des machines. Puis c'est des gens qui, tristement, ben, tombent au deuxième plan.
Oui, ça, ils s'éloignent du bonheur beaucoup. J'aimerais entendre Carl, Jacques. On a d'autres appels aussi. Donc, on va conclure sur ce très bel appel, Carl.
Oui, bien, en fait, quand on dit s'éloigner du bonheur, là, ça me fait penser que moi, dans les dernières années, j'ai réalisé que quand je travaillais sur mon poids, ça me rendait pas nécessairement heureux. Mais quand je travaille sur mon bonheur, mon poids baisse, par exemple.
Wow. Mm-hmm. Wow.
Fait que moi, j'ai réalisé après quelques années là, que j'avais besoin d'aide. Puis j'ai fini par aller consulter, moi, pour des troubles alimentaires. Puis c'était un éveil de me dire, OK, oui, j'ai fait un très bon bout de chemin moi-même pendant même quelques années. Puis là, j'aurais besoin de quelqu'un qui me fait faire un autre petit bout. Puis j'ai consulté pendant à peu près un an. Puis ça m'a amené à continuer d'avancer aussi. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide.
Ça vient confirmer ce que vous disiez, Dr. Larocque, que c'est entre les deux oreilles dans un sens. Il faut régler d'abord. Donc, la thérapie serait plus amaigrissante que le régime sur le long terme.
Je pense que ça prend tout. Faut perdre du poids, faut qu'ils voient des résultats sur la balance, sans ça, ça fonctionne pas. Donc, il y a différents régimes. Il y en a qui sont santé, d'autres qui le sont moins. D'où la perte de poids par chirurgie pourrait être acceptable dans certains cas. Je pense pas autant qu'on fait aujourd'hui, mais il y a certaines personnes qui peuvent en bénéficier. Mais tout le temps, le faire dans un cadre où on travaille sur le pourquoi. Hein? Jacques le dit très bien. En anglais, j'avais traduit un de mes livres. J'ai écrit 14 livres sur le sujet, sur la motivation, la gestion des émotions. Et j'ai appelé ça « the why book » en anglais. Le pourquoi. Trouve ton pourquoi. Et il y a toujours un pourquoi. Et après ça, moi, je pense qu'il y a probablement, si on pense qu'il y a 100 personnes qui ont un problème de poids, il y a probablement 95% qui ont besoin d'un support. mais un sport complet, tu sais, qui va s'attarder au pourquoi. Moi, je pense que oui, on sait l'alimentation. Jacques et Carl font beaucoup d'entraînement, tout ça, c'est merveilleux. Mais le troisième élément qui est jamais parlé, ni par les pédiatres dans ce qu'on a vu ce matin dans la presse, c'est l'approche psychologique, c'est-à-dire pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui fait que je fais un mauvais choix? Et je pense qu'aujourd'hui, notre société qui est basée sur la performance, le stress chronique, c'est l'ennemi numéro un.
Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et même se poser la question pourquoi je me fais du mal?
Oui.
Quand on sait les conséquences pour la santé, diabète, maladie cardiaque...
Mais la personne ne pense pas comme ça. Elle va se faire du bien en outre-mangeant. Je veux dire,
mais
elle se fait croire ça.
Tantôt, oui, c'est ça. Mais par contre, elle doit savoir quelque part qu'elle se fait du mal aussi. Quand elle voit les pilules, puis
ouais,
la difficulté à marcher. Donc, assez jeune, on voit des personnes qui ne sont pas très, très vieilles, puis on sent que ce n'est pas évident de marcher, le poids sur les articulations.
Ce que j'aime ce matin, il y a une notion, moi, je pense, puis je ne sais pas si Carl pourra le confirmer, il y a énormément de désespoir chez les gens qui ont un problème de poids.
Oui.
Il y a énormément de gens malheureux, désespérés, parce qu'ils ont tout essayé, pensent-ils, de régime X, Y, Z, à la mode et tout ça, puis ça n'a pas marché.
Parce qu'ils n'ont pas réglé ce qui est à la base.
C'est ça, mais ils pensent qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'ils ne peuvent pas faire plus. Alors, je pense que ces deux témoignages-là, moi, me bouleversent positivement. Je trouve ça très intéressant.
Et il y a Sylvain au téléphone qui aussi a perdu du poids. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, la gang.
Est-ce que ça serait Sylvain Giguère, par hasard?
Salut, Carl!
Hey, j'ai on t'a invité toutes tes amis,
mais non,
Carl,
même
c'est
pas,
bien.
En fait, mais Sylvain est un autre bon exemple d'un gars qui a perdu plus de 200 livres et qui maintient cette perte de poids depuis déjà plusieurs
grâce
années.
Grâce à toi, Carl?
Non, mais on a tous... Ben oui, un peu, je pense que Sylvain me suivait, mais
ouais,
on a un peu tous fini par trouver...
Comment vous dites, Sylvain?
Carl m'a réveillé sur certains points et puis m'a allumé aussi, puis il sait, je pense que je l'ai rencontré une fois.
Ça a été quoi la phrase magique? La phrase que...
Ben, parce que j'étais rendu vraiment trop petit et je faisais vraiment trop une obsession sur le poids. Je pesais 367 livres avant. J'ai descendu jusqu'à, malheureusement, 140 livres.
Oula.
Et puis, à ce moment-là, je pensais que j'étais heureux. C'était complètement faux. Aujourd'hui, j'ai remonté à peu près à 205, 210. Puis je suis tellement bien. Je suis tellement heureux. J'ai trouvé la moyenne que j'avais besoin. J'ai trouvé mon poids santé dans ma tête.
Vous mesurez combien, juste par curiosité?
5,8.
5,8, OK.
5,8.
Parfait.
Et puis, ça a été surprenant.
Avec l'exercice, tout ça. Donc...
L'exercice, oui. Les calories, en fait. Moi, moi aussi, j'ai fait tout seul parce que j'ai une peur extrême des hôpitaux, ces affaires-là. Je me suis levé un matin, je me suis vu dans le miroir, puis j'avais tellement de graisse que je voyais même plus mes bobettes, en fait. Fait que ce matin-là, je pouvais pas aller jouer avec mes enfants, c'est évident. Je pouvais pas rentrer dans les manèges de la ronde avec mon plus vieux. Puis je me suis réveillé, je me suis dit, je vais aller me peser, puis c'est aujourd'hui que ça commence. Ça faisait 150 fois que je le disais. Puis je sais pas pourquoi ce matin-là, il y a eu le déclic. Puis dans ma tête, je pensais que je pesais 250. Puis quand j'ai vu le poids sur la balance, 367, j'ai fait « Wow! » Il faut que tu te réveilles, mon homme, il faut que tu te payes la vie. Puis la perte de poids, je pense que c'est ça aussi, c'est prendre soin de toi, mais te payer la vie sur le long terme, parce que je m'en allais droit dans le mur. J'appelle ça pour moi un suicide. Dans le
fond. Oui, en effet, quand on est rendu dans ces poids-là, puis qu'on continue, puis en plus, quand on a des enfants qu'on aime. Sylvain, merci de votre appel. Je veux, avant d'aller à la pause, qu'on aborde un aspect important que je ressens de Sylvain, que j'ai ressenti de Jacques, que je ressens de Carl. Il faut apprendre à s'aimer.
Indispensable.
C'est un geste d'amour, dans le fond.
Tout à fait, parce que, les gens vont dire, mais je peux pas m'aimer, j'ai 100, 200 livres de trop, ou 50, peu importe. Ou des fois, il y en a qui ont 10 livres, puis ils s'aiment pas. Il faut s'aimer avec ce qu'on a. Et s'aimer suffisamment, on va faire quelque chose. Pensez à votre enfant. Si votre enfant, par exemple, a un surplus de poids, si vous l'aimez beaucoup, vous allez dire, mais fais quelque chose, va voir des gens compétents, fais-toi suivre, etc. Alors, c'est la première chose, c'est s'accepter, même avec notre problème de poids, mais on n'est pas obligé d'accepter l'excès de graisse. Donc, pour faire quelque chose, il faut s'aimer. Alors, c'est la première chose à faire, s'accepter.
Est-ce que les gestes très concrets, très publics, par exemple d'une Safia Nolin, la chanteuse que j'aime beaucoup, l'été dernier, une vidéo où elle se montre nue, elle a du poids, n'est-ce pas? J'utiliserai pas d'autres mots, c'est une réalité. Elle n'est pas mince. Est-ce que c'est bon pour l'acceptation de soi de se dire, parce que de plus en plus, il y a le mouvement de femmes qui sont enrobées, disons donc, et qui vont dire que non, c'est correct, puis je suis bien, puis etc., 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 puis il faut arrêter de dire qu'on n'est pas belle. Il y a toutes sortes de corps, etc. Est-ce que c'est bon c'est pas bon?
Je vois deux côtés à cette médaille-là. D'un côté, qu'elle s'accepte avec son excès de poids puis qu'elle se trouve bien, etc., c'est bien. Moi, je trouve ça positif, c'est correct. Le problème, c'est que si je suis en surpoids autant que ça, est-ce qu'il y a des effets sur ma santé? Est-ce que je ne serais pas diabétique très tôt, hein, diabète type 2? On a une épidémie de diabète type 2. Ça approche le million de Québécois.
Certains commencent même, pas commencent même, mais certains appellent même ça le cancer du sang, dans le sens où c'est un truc à très long terme. Là. C'est une maladie qui...
Tout à fait. Alors, juste une maladie qui est moins spectaculaire, l'arthrose, le vieillissement des os, l'arthrite des genoux. Mais des gens qui ont un surplus de poids pendant... La plupart ont beaucoup de difficultés à marcher à 50 ans. Qu'ils auront besoin d'autres choses. Alors, évidemment, le cholestérol, le cancer. Aujourd'hui, on sait, puis les dernières études, c'est 40% de l'alimentation augmente le risque de différents cancers. 40%.
Tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout, l'environnement.
C'est bien beau de s'aimer comme ça, puis d'être satisfait, mais la performance physique aussi est plus limitée. C'est sûr que je suis sûr que Carl, avec ta perte de poids, tu es pas mal plus actif physiquement.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Je suis d'ailleurs en train de me préparer pour mon troisième marathon.
Ben non, mais de toute façon, on voit qu'il y a bien du muscle. Hein? Ouais. C'est pas juste des petites poignées d'amour. C'est vraiment la musculation totale, une belle musculature. On va s'arrêter de nouveau pour la pause. Ce sera déjà la dernière partie de cette première heure fascinante sur l'obésité en cette journée mondiale de lutte contre l'obésité. On a réglé un problème. L'obésité, c'est-à-dire pour Dr Maurice Larocque, n'est pas une maladie. Par contre, des pédiatres veulent que ce soit reconnu. On va revenir là-dessus pour expliquer pourquoi ce n'est pas une maladie. Pourquoi en même temps, c'est important que ce soit reconnu comme une maladie. En compagnie du Dr Maurice Larocque, spécialiste de l'obésité qu'il étudie depuis plus de 40 ans, auteur du livre, un de ses livres, il en a écrit 14, « L'obésité n'est pas une maladie », il est conférencier aussi, et Carl Savard, qu'on connaît bien parce qu'on l'a déjà reçu, ancien obèse qui pesait 300 livres, qui est devenu entraîneur personnel parce qu'une fois qu'il a perdu son poids, il voulait aider d'autres personnes à mieux s'aimer, à mieux vivre, à mieux se prendre en charge. On a au téléphone Francine qui a perdu du poids aussi. Bonjour Francine.
Oui, bonjour. Moi, j'ai perdu 40 livres à peu près en 8 mois. Puis là, ça fait pratiquement un an que je maintiens ça.
Bravo.
Je maintiens depuis ce temps-là.
Bravo,
mais moi,
Francine.
Moi, j'étais une bébite à sucre. Pas une bébite, une droguée. Droguée du sucre. Moi, ça me prenait du sucre tout le temps dans les armoires. Partout.
C'est une drogue terrible.
Ah, c'est horrible, ça, là. On dit que c'est pire quasiment que la cocaïne sur le cerveau.
Beaucoup disent ça.
Oui, parce que quand on arrive à couper tranquillement, on se rend compte, mettons, quelques années après qu'on a fait ces coupures-là, on va regoûter à la même chose qu'on mangeait à l'époque, qu'on trouvait pas sucré, puis là, on trouve ça terrible.
Incroyable. Même s'il y a presque pas de sucre, je dis c'est trop sucré. Puis moi, j'ai commencé keto-cétogène. C'est ça que j'ai commencé. Parce que j'ai dit tant qu'à y être, je vais couper le sucre, je suis à 100 grammes de glucides par jour. J'ai plus de reflux gastrique, j'ai plus mes symptômes d'hypoglycémie, j'ai plus rien. Puis là, tranquillement, j'incorpore, c'est-à-dire comme des légumineuses, tranquillement, je m'en vais vers le méditerranéen à ce moment-là.
Très sage.
Mais j'ai tout éliminé, les produits transformés. Puis moi, je mange pas une livre de bacon comme qu'il y a du monde qui vont faire.
C'est ça qui me fait peur du keto, moi.
C'est ça,
le keto. Et les bons gras, toujours de l'huile d'olive.
Oui, mais bon gras, pas mauvais gras, c'est du gras.
Oui.
Alors, ce que vous avez fait, au fait, c'est que lorsqu'on diminue les sucres, vous avez bien fait de le faire.
Sucre lent et sucre rapide.
Les sucres, même des jus de fruits, il faut faire attention parce que ce n'est que du sucre. Alors, vous avez diminué votre appétit. Alors, vous avez moins consommé de calories. Si on suit ce que moi j'appelle le keto gras, là, où 80% ou presque des calories viennent du gras, je vois énormément de patients au bureau qui prennent du poids et qui ont fait des prises de sang et ça interfère avec les paramètres sanguins. Ouais.
Je veux que les gens arrêtent de penser qu'il y a une recette qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde.
Non. Moi, j'ai déjà essayé de couper les sucres, même les sucres lents, pâtes, patates, ma tête ne fonctionnait pas.
Autant au niveau de l'activité physique que de l'alimentation. que de prendre soin de sa santé mentale. C'est un amalgame de tout ça, puis il y a un morceau de casse-tête qui est différent pour chacun.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il y en a qui peuvent fonctionner sans sucre lent, là, sans pâte, riz, pommes de terre, tout ça. Moi, on dirait que peut-être que j'ai pas fait assez longtemps, mais moi, mon cerveau n'est pas heureux. Mauvaise concentration après, je parle pas une journée ou deux, là, mais si je fais deux semaines sans sucre, 0, 0, 0, je parle pas de dessert. Là.
C'est là où, lorsqu'on fait un régime cétogène, madame a pas fait un régime cétogène, elle a fait un régime sans sucre. Il appelle ça keto, là, mais c'est pas vraiment keto. Puis ici, on essaie de mesurer les corps cétoniques, là, la dégradation des graisses. Il y en a très peu ou pas. Alors, c'est pas un vrai régime cétonique. Un vrai régime cétogène, et ça, il y a 75 ans d'études là-dessus et de publications scientifiques, c'est un régime dans lequel il y a 50 grammes ou moins de glucides, mais 800 calories ou moins, peu de gras et suffisamment de protéines. Ça, bon, si on respecte des critères donc scientifiques, médicaux, on peut faire un régime bon en sucre sans avoir de fringales, sans avoir mal à la tête. C'est probablement que vous étiez juste autour de entre 50 et 100 grammes de glucides par jour.
Il manquait quelque chose, sûrement.
Oui, c'est ça, parce que c'était pas bien fait. Mais la même chose, le keto gras, c'est pas bien fait. Moi, je recommande pas ça à personne. On peut pas prendre 10 cuillères à thé de beurre, d'huile.
15 tranches de bacon.
Parce que c'est supposément... c'est des bons gras, mais non. Le secret, c'est la modération.
Et méditerranéen, c'est assez reconnu, hein, qu'une bonne salade d'huile d'olive, des poissons en masse, des viandes maigres.
Ça a fait ses preuves. Puis, alors, c'est quoi la c'est d'être modéré. Il n'y a rien d'exclu. Les viandes sont permises, mais on va en prendre moins. On va alterner avec des légumineuses une journée, avec un poisson. Alors, le secret, c'est la modération et la variété.
Et les portions.
Une fois qu'on a trouvé notre recette aussi, on peut commencer à regarder, puis que ça devient un peu un réflexe, on peut commencer à regarder la qualité de ce qu'on mange aussi. Ça, c'est une autre affaire.
Oui, oui. Effectivement, ne serait-ce que...
La provenance de nos viandes, la provenance de nos légumes, les légumes de saison au lieu d'essayer de...
Et juste couper ce qui est transformé, c'est déjà un beau progrès aussi, parce que ça fait... Ça aussi, on remarque des gros en Europe versus des gros aux États-Unis. C'est pas le même genre de gras. Il y a des peaux d'orange aux États-Unis. Des fois, là, on voit des... Mais vraiment, le corps massacré, moi, je suis convaincue. J'ai pas de preuves scientifiques, mais que c'est des choses transformées.
Entre autres, tout à fait, parce qu'il y a 80 % dans les produits transformés, on évalue à 80 % l'ajout de sucre.
Ouais. 15 secondes chacun, même 10 secondes chacun, le message le plus important.
Moi, mon 10 secondes, je vais le passer pour parler d'un organisme qui s'appelle Bien avec mon corps, qui est géré par le docteur Stéphanie Léonard, puis je vous dis d'aller vérifier la page Facebook, puis de les aider en donnant de l'argent pour que l'organisme se maintienne.
10 secondes, docteur Larocque.
Il y a de l'espoir dans le traitement de la personne, et ça ne dure pas quelques jours, c'est un jour à la fois, et c'est un cheminement spirituel, enfin.
Je rajouterai même une heure à la fois, une minute à la fois. On s'arrête le temps de la pause. Après la pause, on va parler de maisons de répit pour les proches aidants. Très, très, très important. À tout de suite. Merci.